VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 décembre 2015, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Le couple qui a tué mercredi 14 personnes en Californie avait un véritable arsenal dans son appartement.
Décision historique hier pour l'armée américaine, tous les postes de combat, sans exception, sont désormais ouverts aux femmes.
Le FBI a perquisitionné hier à Miami les bureaux de la société Imagina US, filiale aux États-Unis d'un groupe espagnol. Ces fouilles pourraient être liées au scandale de corruption touchant la FIFA.
Nous reviendrons sur les élections historiques au Burkina Faso, où Roch Kabore a été plébiscité, mais pas son parti à l'Assemblée nationale.
À Johannesburg, deuxième sommet de coopération Chine-Afrique, aujourd'hui et demain.
Et ne manquez pas la minute éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le couple qui, mercredi, avait abattu 14 personnes à une partie en Californie avait dans son appartement un véritable arsenal. 12 engins explosifs artisanaux, du matériel pour fabriquer des bombes et des milliers de cartouches de fusils d'assaut, a annoncé la police. Saïd Rizouane Farouk et sa femme Tashfin Malik ont été tués dans une fusillade avec la police non loin du centre pour personnes handicapées de San Bernardino, où ils ont aussi blessé 21 personnes. Le chef de la police de cette ville, Jared Burgoyne, a par ailleurs dit que le couple avait tiré 75 balles et laissé derrière un jouet piégé avec trois engins qui n'ont finalement pas explosé.
Les enquêteurs essaient toujours de déterminer le mobile de ce massacre. Farouk était un inspecteur sanitaire gouvernemental, né à Chicago. Sa femme était du Pakistan. On ne leur connaît pas un casier judiciaire chargé et ils ne figuraient sur aucune liste de surveillance. Bien que le président Obama, la police locale et le FBI refusent d'écarter la thèse du terrorisme, il est également possible que ce crime soit lié à une dispute sur le lieu du travail. Mais un officiel du FBI sur place fait remarquer que c'était clairement une attaque planifiée et que le couple était en mission.
Dans un communiqué publié hier, les États-Unis ont condamné énergiquement les récents attentats suicides à la bombe et attaques barbares de Boko Haram au Niger, au Nigeria et au Cameroun et présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Washington a réaffirmé son engagement et soutien aux forces, aux efforts des gouvernements et peuples de la région du bassin du lac Tchad. Les États-Unis continueront d'aider le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin dans leur lutte contre Boko Haram en leur fournissant conseils, renseignements, équipements, entraînements et logistique, ainsi qu'à travers l'aide humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, souligne le département d'État américain.
À Johannesburg, rencontre au sommet aujourd'hui et demain entre une quarantaine de dirigeants africains et leur homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du deuxième sommet de coopération Chine-Afrique. On s'attend à ce que M. Xi annonce de nombreux contrats, bien que les investissements chinois en Afrique aient chuté de plus de 40% au cours des 6 premiers mois de 2015 par rapport à la même période l'an dernier, une chute attribuée au ralentissement de la croissance chinoise. Avec plus d'un million de travailleurs et plus de 2000 entreprises présente sur le continent, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, où elle a détrôné les États-Unis en 2009. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette émission.
Le président Abdel Fattah al-Sissi en Égypte a affirmé hier que les policiers seront tenus responsables des actes posés dans le cadre de leur travail. Pour marquer cette volonté, des enquêtes ont été ouvertes sur des cas de torture dans des commissariats égyptiens. Morgane Guériac.
Lors d'une visite dans une académie de police, le président égyptien a déclaré que tout policier fautif devra rendre des comptes. Il a toutefois précisé qu'il ne fallait pas pointer du doigt toute la police dans son ensemble. À Ismaïlia, dans le nord-est de l'Égypte, un policier a été placé en détention provisoire pendant 15 jours pour des coups ayant entraîné la mort d'un vétérinaire le 25 novembre dans un commissariat. À Louxor, dans le sud, 4 policiers font face à des accusations similaires après la mort, le 26 novembre, d'un homme interpellé la veille dans un café. Le ministère égyptien de l'Intérieur avait assuré qu'il n'y avait aucune complaisance, tout en soulignant qu'il s'agissait de cas isolés. Des dizaines de policiers avaient été traduits en justice pour la mort de milliers de manifestants pendant la révolte de 2011, mais depuis, la plupart ont été acquittés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine a pris jeudi la décision historique d'ouvrir aux femmes tous ses postes de combat sans exception, y compris au sein des unités d'élite. Tatiana Mosso.
Selon le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, les femmes pourront désormais accéder à tous les postes de combat si elles remplissent les conditions fixées, notamment les critères de capacité physique. D'après le patron du Pentagone, des femmes pourront conduire des chars, tirer au mortier, être membres des forces spéciales comme les bérets verts ou les Navy SEALs, ou mener des soldats d'infanterie au combat. Ashton Carter a ajouté que l'armée doit avoir accès au plus grand nombre possible de talents et ne peut laisser les femmes de côté. L'armée américaine compte environ 15% de femmes dans ses effectifs et l'administration Obama avait annoncé en 2013 sa volonté d'ouvrir les postes de combat aux femmes. Trois jeunes femmes ont marqué un point symbolique cette année en réussissant la très dure formation des Rangers de l'armée de terre américaine.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté la Russie et l'Ukraine à œuvrer de concert pour la fin des tensions et le rétablissement du cessez-le-feu en Ukraine. S'adressant hier à Belgrade en Syrie au conseil ministériel de l'OSCE, M. Kerry a plaidé à demander à Moscou d'aider au retrait de troupes russes de l'est de l'Ukraine et aussi à l'accès libre d'observateurs de l'OSCE à la région du Donbass. Kiev doit de son côté aider à rétablir le cessez-le-feu et commencer à reconstruire l'est de l'Ukraine, a déclaré M. Kerry.
La conférence mondiale sur le climat se poursuit près de Paris. Elle doit aboutir le 11 décembre à un accord pour limiter le réchauffement de la planète. Éric Manirakiza.
Vu la lenteur des discussions, Tahsin Essop, représentante de WWF, ironise en disant que certains participants sont en train de changer de place sur le pont du bateau pour avoir une meilleure vue de l'iceberg. Toute la semaine, l'atelier Yann Arthus Bertrand montre des photographies sur la fonte des glaces antarctiques. Les pays africains, qui sont les moins pollueurs et subissent de plein fouet les effets du réchauffement, réclament des réparations. Le fossile du jour, remis par des ONG aux mauvais élèves, a été attribué au Danemark, accusé de vouloir réduire son aide financière aux pays en développement. Les prix Pinocchio du climat sont allés à la compagnie pétrolière américaine Chevron et au groupe français EDF et BNP Paribas, accusés d'affaiblir les politiques climatiques. Enfin, hors du centre de conférence du Bourget, les artistes comme Patti Smith et Radiohead seront les vedettes en concert. Pour le climat.
Le FBI a perquisitionné hier à Miami les bureaux de la société Imagina US, filiale aux États-Unis d'un groupe espagnol. Ces fouilles pourraient être liées au scandale de corruption touchant la FIFA. John Lyndon.
Imagina US collabore pleinement avec l'enquête du FBI, selon Kent Hull, un conseiller de l'entreprise. Cette société offre des services dans le secteur de la publicité et du marketing. Ces perquisitions ont été lancées le jour de l'interpellation de deux des vice-présidents de la FIFA à Zurich, le Hondurien Alfredo Awit, également président par intérim de la Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, ainsi que le Paraguayen Juan Angel Naput, président de la Confédération sud-américaine. Ces interpellations surviennent après un premier coup de filet en mai parmi les responsables du football mondial. Loretta Lynch, ministre américain de la Justice, a annoncé hier que ces suspects ont reconnu leur implication dans le système de corruption à la FIFA. Ils ont accepté de plaider coupables, selon Mme Lynch, qui précise que 5 d'entre eux ne figuraient pas dans la première série d'inculpations lancée il y a 6 mois.
La Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
Après 10 ans de fermeture, la nouvelle société textile sénégalaise affiche ses ambitions, tripler ses capacités de production grâce notamment à l'achat de nouvelles machines en Allemagne et en Italie pour un montant de 3,5 milliards de francs CFA, soit 5,3 millions d'euros. Implantée à Thiès, à 70 km de Dakar, la filature veut atteindre au deuxième semestre de 2016 un chiffre d'affaires de 20 milliards de francs CFA avec 450 employés contre 120 pour le moment à la fin de cette année. Une part de 80% de la production de fils de coton de la NSTS est destinée à l'export, les 20% restants étant dévolus à l'industrie locale et à l'artisanat. Et pour finir, l'assureur camerounais Activa se lance dans la micro-assurance mobile en mettant sur le marché Activa Makala, destinée à prévenir les incapacités temporaires ou permanentes de la population économiquement faible. En échange de primes mensuelles de 600 francs CFA ou 1000 francs CFA, soit 1,52 euros, l'assuré est couvert en cas de perte de revenus due à une incapacité temporaire. Il bénéficie aussi d'une assistance personnelle ou d'une couverture des dépenses du ménage lorsqu'il s'agit d'une incapacité permanente. Le groupe camerounais ambitionne les 30 000 personnes dès la première année pour un chiffre d'affaires de 150 millions de francs CFA qui devrait doubler la troisième année. Au Cameroun, les branches vie et non-vie du groupe Activa ont réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de francs CFA, soit 36,28 millions d'euros en 2014.
Les sports à présent avec Timothée Donangmaï. Tim, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La FIFA, dans une interminable tourmente avec l'inculpation hier par la justice américaine de plusieurs de ses responsables ou anciens responsables.
Ils sont au total 16 à avoir été pris pour cible par le ministère américain de la justice, parmi lesquels deux vice-présidents de la FIFA arrêtés hier à Zurich, le paraguayen Juan Ángel Naput et le hondurien Alfredo Awit Banegas, qui s'opposent tous les deux à leur extradition vers les États-Unis. Ces arrestations montrent la nécessité des réformes à appliquer au sein de l'instance suprême du foot mondial, a indiqué son président intérimaire Issa Hayatou jeudi.
Ici aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de football, MLS, s'impatiente au sujet du projet de David Beckham de lancer une équipe à Miami.
Eh oui, Idrissa, le projet qui date de 3 ans est au point mort. Nous voulons bien faire les choses. Si on n'y parvient pas, il va falloir avancer. David en est conscient. Les responsables de la ville en sont conscients aussi, a déclaré le président de la Major League Soccer, Don Garber.
Le Bénin a abrité la première formation de gymnastique de la zone 2, une semaine pour apprendre l'aérobic gymnastique. Des précisions avec Élisée Onkpatine.
6 pays ont pris part à cette formation. Le Congo, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la République centrafricaine et le pays hôte, le Bénin. Pendant 8 jours, les aérobiques ont appris les éléments fondamentaux de la pratique de cette discipline. Une initiative de la Fédération béninoise de gymnastique. Son président, Léonide Baguidi, explique.
C'est la première fois qu'une académie dans la zone 2 a regroupé autant de pays. Cela montre l'intérêt que les différentes fédérations de gymnastique portent à la gymnastique aérobique dans la zone. L'académie, quant à elle, vous soumet à une épreuve écrite et une épreuve orale. Et c'est ceux qui passent entre les mailles de ces filets qui obtiennent le diplôme niveau 1 de gymnastique aérobique. Donc, ils deviennent des entraîneurs internationaux.
Précisons que cette formation a été assurée par 3 experts venus de l'Algérie, de la France et de la Slovaquie. Boycon, Élisée Rumpati, VO Africa.
Les résultats d'hier soir des matchs de la NBA, la Ligue américaine de basketball professionnel, eh bien, c'est le Miami Heat du vieillissant Dwayne Wade qui a eu raison du Oklahoma City de Kevin Durant, la jeune vedette de la Ligue. Le score 95 pour Oklahoma City et 97 pour Miami. Le match était également serré entre Denver et Toronto. Denver a eu 106 points et Toronto 105. Orlando 103 et puis Utah 94. 103 pour San Antonio Spurs et 83 pour Memphis. Et finalement Indiana 111, Portland 123.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les élections historiques ayant emporté Roch Marc Christian Kabore à la tête du Burkina continuent de dominer l'actualité en Afrique. Cet ancien dignitaire du régime Compaoré a été élu dès le premier tour, mais ses compatriotes ne lui ont pas donné la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si bien qu'il devra composer avec les autres forces politiques du pays. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou Dani Aïda, expert en gouvernement d'Africa Label, firme de conseil en développement international.
Les mutations politiques au Burkina Faso depuis octobre 2014 sont assez difficiles à caractériser. Normalement, quand on veut considérer les donnes après le départ de Blaise Compaoré, Roch Kabore fait partie, disons, des hommes nouveaux ou ceux qui prônent le changement. Donc, en définitive, il a pris cette cause pour le changement et pour ça, certainement qu'il a convaincu les électeurs burkinabés dans ce sens-là.
C'est quand même un pilier de l'ancien régime, même s'il a connu une rupture brutale avec Compaoré.
Exactement. Vous savez, quand vous voyez la classe politique burkinabé, la plupart des leaders qui sont en mesure de prendre le pouvoir, qui ont un mouvement politique capable de gérer le pays, ont d'une manière ou d'une autre collaboré avec ce régime, et comme le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Je crois que les Burkinabés n'ont pas vu ce côté-là. Ils ont certainement apprécié le côté de ceux qui, à un moment, ont eu à amorcer une certaine rupture avec l'ancien régime. Et ils ont certainement aussi appréhendé sur les propositions politiques que les différents acteurs ont formulées pendant cette période. Mais je crois que c'est bien de voir les choses par rapport au désir de changement des Burkinabés. Mais au-delà de ça, il y a d'autres contingences de la politique interne qu'il faut prendre en compte, certaines données sociales, certaines données ethniques qui doivent être prises en compte quand on veut comprendre les enjeux qui ont conduit à l'élection du nouveau président.
Quels sont aujourd'hui les garde-fous qui pourraient empêcher le Burkina de retomber dans les travers anciens ?
Les Burkinabés eux-mêmes le disent, que plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que quand il y a un gouvernement aujourd'hui qui ne fait pas le désir des populations, les Burkinabés sont convaincus qu'ils sont capables de remettre ce gouvernement à sa place, soit en le renversant ou en le sanctionnant dans les urnes. Donc je crois que c'est assez compris de la nouvelle majorité qui va se dégager pour non seulement prendre en compte les attentes et les préoccupations de la population, mais faire en sorte surtout à respecter les normes et les principes d'un régime démocratique réel, en respectant la liberté publique, et surtout en gérant le pays convenablement sans tomber dans les méandres de la corruption, par exemple.
On a vu qu'au niveau des législatives, les Burkinabés ont choisi de ne pas mettre tous leurs œufs dans un seul panier.
Oui, c'est l'autre aspect qui est assez intéressant de ce que nous sommes en train de vivre au Burkina Faso, qui est assez caractéristique. Ils ont donné une majorité au premier tour à Roch Kabore, mais ils n'ont pas donné une majorité parlementaire, du moins pas une majorité absolue. Je crois que c'est une invitation à la classe politique de se concerter pour constituer une majorité. Certainement, cette concertation doit pouvoir amener les Burkinabés, du moins sa classe politique, à réfléchir sur ce qui les réunit pour que le prochain mandat s'inscrive dans une certaine cohésion à la fois politique, sociale, pour éviter les soubresauts et permettre au nouveau président et à son gouvernement de mettre en œuvre leur programme.
Dani Aïda, expert en gouvernance d'Africa Label, nous parlait de Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Bénin, et pour citer notre correspondante à Cotonou, la petite lumière qui brillait il y a quelques jours sur l'école béninoise à cause de la cessation du mouvement de grève s'est à nouveau éteinte. Certains syndicats de l'éducation ont décidé de continuer avec le mouvement de débrayage jusqu'à satisfaction complète de leurs différentes revendications, dont les plus importantes restent la revalorisation de la fonction enseignante et la revalorisation salariale. De la capitale économique béninoise, Ginette Fleur-Adandé.
Après quelques semaines de grève, les enseignants ont accepté, après maintes négociations avec le gouvernement, de reprendre le chemin de l'école afin de sauver l'année scolaire. Ceci au grand bonheur des acteurs de l'école qui, lundi dernier, ont exprimé leur satisfaction.
Nous sommes très contents. Nous remercions aussi sincèrement les professeurs. Nous les remercions puisqu'ils sont venus faire les cours avec nous.
Et nous souhaitons une bonne reprise à tous et à chacun.
Donc c'est une joie de retrouver nos apprenants parce qu'on était en grève, mais on avait aussi à cœur, n'est-ce pas, de les retrouver, de leur donner l'enseignement nécessaire qu'ils puissent réussir.
Le gouvernement a cédé à la doléance des travailleurs et les travailleurs eux-mêmes ont accepté de leur côté de faire le sacrifice requis.
Mais c'est sans compter avec la discorde légendaire qui caractérise le monde syndical, surtout dans le domaine de l'éducation. En effet, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, en temps des Fézennes, désapprouve la suspension de la grève et appelle les enseignants à la mobilisation générale. La Fézenne dénonce le flou artistique et la trahison de l'État qui s'amuse à monter les syndicats les uns contre les autres.
La trahison à leur niveau est érigée en système et cette fois-ci, elle a été plus ingénieuse alors que sur le terrain, les enseignants boudent. Poudine ne sont pas d'accord. La FESEN, tenant compte de ce que les enseignants veulent, a maintenu sa motion et appelle tous les enseignants à rester mobilisés, s'organiser pour briser tous les obstacles et continuer la grève pour la satisfaction de nos revendications.
Déjà mardi, certaines écoles ont encore fermé leurs portes et les apprenants renvoyés à la maison pour des jours incertains. Pire encore, les enseignants vacataires sont aussi remplacés. Ceux qui partent en grève ont aussi décidé de déposer craie tablier et exigent de l'État la sédentarisation de leur statut d'enseignant vacataire.
On décide de faire une expérimentation dans l'éducation, un secteur très sensible. On va faire des expérimentations sur des âmes innocentes qui ne peuvent même pas faire des analyses sur eux-mêmes et par eux-mêmes. Avec précision, nous demandons la prise d'un acte officiel juridiquement valable portant sédentarisation des enseignants vacataires des collèges et lycées du Bénin.
Un avenir incertain qui voltige au gré des humeurs et des revendications pour un mieux-être de la fonction enseignante. L'école béninoise n'est pas encore sortie de l'auberge et cette éducation au lance-pierre réservé aux apprenants est un signe avant-coureur des échecs massifs aux différents examens. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Les journées des leaders politiques de Centrafrique viennent de se tenir les 2 et 3 décembre à Bangui. L'objectif, jeter un regard sur les perspectives de reconstruction nationale et les recommandations du forum de la capitale centrafricaine. Au micro de Félix Yepassis Zimbro, voici les conclusions qu'en tire Anissé Clément Guillama Massogo, conseiller politique à la présidence de la République.
Les grandes conclusions ont porté sur l'état d'avancement du processus électoral, sur la sécurisation, sur l'après-élection. Parce que, comme vous le savez, Madame le chef d'État a été à New York récemment, en marge de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une réunion de haut niveau qui a été organisée sur la République centrafricaine. Et cette réunion de haut niveau portait sur l'après-élection. Et donc aujourd'hui, tous les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi tous les leaders politiques, doivent être sensibilisés sur ce qui va se passer dans notre pays à l'issue ou après ces élections. Et donc, ils ont eu droit à un exposé sur la situation de fragilité du pays, parce que le pays est dans un état qui n'est pas encore tout à fait relevé. Et ils ont aussi eu droit aux défis qui se posent au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc, tous les secteurs clés de la vie nationale leur ont été présentés pour qu'ils aient déjà une prise de conscience assez claire de tout ce qui les attend après ces élections.
Est-ce que vous avez parlé également du volet bonne conduite durant cette journée de leaders politiques centrafricains?
Le volet bonne conduite n'a pas été laissé de côté puisque depuis déjà une semaine, le cadre de concertation avait planché sur le projet de code de bonne conduite qui a été élaboré par la partie centrafricaine avec la collaboration des partenaires extérieurs. Et ce projet de bonne conduite a déjà été validé. Et donc, aujourd'hui, on attend sa signature par les différentes parties prenantes. Et c'est ce qui est programmé pour le 9 décembre prochain.
C'était Anissé Clément Guillama Massogo, conseiller politique à la présidence de la République centrafricaine.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Nous vous le disions en première partie, en 2015, la lune de miel entre l'Afrique et la Chine, son principal partenaire économique, semble terminée. Les investissements du géant asiatique en Afrique ont chuté de 40% au premier semestre et l'inquiétude grandit au sein d'un continent dépendant de ses exportations de matières premières. C'est dans ce contexte inédit que le président chinois Xi Jinping, arrivé mercredi à Johannesburg, rencontrera ce vendredi ses homologues africains à Johannesburg pour le 6e forum sur la coopération sino-africaine, le 2e en présence des chefs d'État. Nicolas Pinault a joint pour une analyse Sébastien Lebelzik, directeur du site China Africa Info.
Ce ne sera pas un sommet morose parce que ce sera au contraire un sommet qui se veut historique. D'abord, c'est la première fois depuis 15 ans que ce sommet, ce forum sino-africain existe. C'est la première fois qu'il se déroule en Afrique, en terre africaine. Et c'est bien la preuve que les choses sont véritablement en train d'évoluer. On n'est plus dans le cadre fermé, feutré d'un forum à Pékin où les dirigeants africains vont voir le président chinois prêter allégeance, demander un peu d'argent. Non, on n'est plus du tout dans cette relation aujourd'hui. On est dans une relation d'égal à égal entre toutes ces puissances. Et puis on est dans une relation que la Chine espère gagnant-gagnant, selon les termes qu'elle utilise beaucoup dans ses discours officiels. Gagnant-gagnant, ça veut dire que effectivement, elle souhaite que l'Afrique aussi puissent profiter des investissements. Et pour ça, il va falloir tirer les leçons de ces 15 années de la Chine-Afrique, de ces 15 années qui ont conduit effectivement à ces mauvaises statistiques.
Est-ce que les Chinois peuvent aider à sortir les Sud-Africains de l'obscurité? On connaît les problèmes récurrents d'électricité en Afrique du Sud.
Alors effectivement, il y aura des problèmes conjoncturels qui vont être abordés pendant ces sommets. Il est arrivé aujourd'hui en Afrique du Sud, il s'est rendu compte là aussi qu'il y avait des problèmes d'infrastructure et les pays vont travailler ensemble. Donc il y a des problèmes qui sont particuliers à chaque pays. Mais la véritable nouveauté de ce sommet, c'est d'essayer de passer de ces questions particulières qui sont propres à chaque pays, de ce troc un peu classique entre la Chine et l'Afrique du donnant-donnant. Je vous donne de l'argent, je construis pour vous des stades et des infrastructures et en échange, vous me donnez vos matières premières, pour passer à une relation apaisée qui profite à tout le monde. Et c'est très important parce que le thème qui sera mis en avant par la Chine lors de ce sommet, alors bon, l'intitulé n'est pas très agréable à entendre, mais c'est le thème des trois réseaux et de l'industrialisation. Alors les trois réseaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine va mettre l'accent et financer des réseaux ferroviaires à grande vitesse, des réseaux autoroutiers et des réseaux d'aviation régionale sur l'ensemble du continent. Et dans le même temps, elle va tenter de contribuer à une meilleure industrialisation de l'Afrique. Ça passe notamment par cette question, effectivement, de l'électricité, mais pas seulement. Ça doit contribuer, ces réseaux ferrés, ces réseaux autoroutiers, etc., à développer l'Afrique et à lui permettre de passer à un cap supérieur.
Avant d'arriver en Afrique du Sud, le président chinois s'est rendu au Zimbabwe, pays généralement boudé par les présidents occidentaux. Pourquoi le président chinois s'est-il rendu à Harare?
Xi Jinping était au Zimbabwe, il a vu les difficultés. Il a compris que le pays, le Zimbabwe, était au bord de la banqueroute et qu'il fallait donc trouver des solutions. Et le Zimbabwe a toujours été un grand partenaire économique de la Chine et ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, de très nombreux contrats ont été signés. C'est important quand même pour la Chine de maintenir cette bonne relation avec le Zimbabwe parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup prêté au Zimbabwe ces dernières années, que le Zimbabwe a toujours de grosses difficultés économiques et que si la Chine espère un jour être remboursée, eh bien, elle ne peut pas se permettre que le Zimbabwe aille à la banqueroute.
C'était Sébastien Lebelzik du site China Africa Info.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.